chapitre 35, effectivement, et au verset, je pense qu'on va... Ouais, verset 1. Non, tu as raison que... Tu as raison... Non, tu as raison qu'en fait, on a avancé. Exactement.
Mais on peut peut-être reprendre un peu d'avant.
Non, tu as raison, tu as raison. Tu as raison, autant pour moi. On est arrivé à Bethel. Alors, effectivement, ça y est, l'histoire avec Esav est terminée. L'histoire avec Shrem est donc terminée. Les frères ont décidé de venger leur sœur. Et ils ont bien fait. Et ils ont bien fait, puisqu'on voit que finalement... Eh bien, personne ne les a poursuivis. C'était la crainte de Yaakov que si on commence à agir, eh bien, tout le monde va nous tomber dessus. Grande crainte israélienne bien connue. Que si le peuple juif, fait quelque chose, alors, qui lève le petit doigt, alors, on va se prendre les foudres du monde entier. Ce qui est intéressant, c'est que quand on analyse l'histoire, bah, c'est quand on a levé le gros doigt que personne n'a rien dit. Mais quand on a peur de lever le petit doigt, alors on se fait attaquer dans tous les sens. Regardez, à chaque fois que Israël a dit « Non, maintenant vous me laissez tranquille, je me défends », eh ben c'est tout. Il s'est rien passé. En 48, les Américains ont dit « Vous déclarez pas l'indépendance ». On a déclaré l'indépendance et on a gagné la guerre et personne n'a rien dit. En 67, on s'est défendu, on a lancé la guerre de prévention, on a gagné, et c'est tout, le monde s'est tué après. Le fait que, aujourd'hui, on soit dans cet état d'esprit où à chaque fois qu'on a peur de bouger le petit doigt, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les instances internationales, on voit que dans l'histoire, à chaque fois qu'on a, pris notre responsabilité et dit quelque chose, eh ben, ça a marché. Et c'était le cas ici, avec les fils de Yaakov. Donc ça y est, on est en place, et en fait, bah maintenant, on est revenu en Israël. On a retrouvé notre place. On a réussi à tenir tête à Esav. Donc c'est bon. Et donc pour montrer qu'on est à la fin d'un cycle, eh bien on te dit « Vatamot devora » dans le chapitre 35, verset 8 « Vatamot devora meneket rivka vatikaver mitachat lebet el tachat alon vaikra shemo alon bachut » nous annonce la mort de Devora, la nourrice de Rivka. Pourquoi on a besoin de savoir ça? Eh bien, nos sages vont nous dire, ça veut annoncer la mort de Rivka elle-même. Elles étaient tellement liées que lorsque l'une est morte, l'autre est morte aussi. Maintenant, je ne sais pas si dans les faits, elles sont mortes vraiment le même jour. Mais le fait que maintenant, Meneket Rivka, celle qui a fait grandir Rivka, n'est plus là, eh bien, ça montre que ça y est, on est passé à une autre étape. On est passé au moment où Yaakov doit... Eh bien, ça y est, maintenant, c'est lui l'ancêtre de la famille. Maintenant, c'est lui le patron. Donc, « Vatikaver, mitachat la betel, et chashamo, alon bachut. Vayera Elohim el Yaakov, od bevo mipadan aram, vayevarech oto. » Dieu se redévoile à Yaakov. Mais il y a une différence entre la fois d'avant et la maintenant. Ben, la fois d'avant, il n'était toujours pas en Israël. Il était seulement à l'entrée, à la frontière. Maintenant, il est là. Et donc, on a dit, Vayomer lo Elohim Shimcha Yaakov, lo yikare Shimcha od Yaakov, ki Misrael yeshemecha, vayikra et shemo Israël. Zehu. Yaakov s'appelle Israël. Psh. Il a fait. Donc, on ne devrait plus du tout retrouver l'appellation Yaakov dans la Torah. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, mais je ne crois pas que ce soit vrai.
Ah, tu ne crois pas que ce soit vrai ? Ben, il n'y a qu'à pas aller très très loin. Hein.
Ouais,
quand on tourne quelques pages, voilà, on arrive direct à... Quand on, là, la fin de la paracha parle de Esav, mais quand on ouvre la première, premier verset de la paracha suivante, « Yeshev Yaakov ouais. » Où tu vois les fenêtres ?
Verset
15. Exactement. Tu as tout à fait raison. J'ai voulu aller trop loin. Donc, c'est-à-dire, à peine 4 versets, 5 versets plus tard, il redevient Yaakov.
Même 14.
Hein? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi cette histoire? Il y a un rabbin qui s'appelait Ben Zoma. Ben Zoma. Shimon Ben Zoma.
Celui de la Haggadah.
C'est le même. Exactement. Et bien justement, dans la Haggadah, il y a un grand débat talmudique. Alors vous connaissez peut-être le texte de la Haggadah, mais c'est que le début du débat. Alors attention, suivez-moi parce qu'on va étudier la Gemara comme ça, sur un coup de tête. La Gemara nous dit comme ça. C'est marqué dans la Haggadah. Amar Rabbi Elazar ben Azaria. Donc Rabbi Elazar ben Azaria dit: toute ma vie, lo zachiti, je n'ai pas eu la chance qu'on dise le troisième paragraphe du schéma qui parle de la sortie d'Égypte le soir. Lo zachiti, j'étais amer yitziat Mitzrayim balelot. Ad, jusqu'à quand j'ai jamais dit le schéma le soir. Donc on parle de la tfila du soir. Dans la tfila du soir, il y a le schéma. Il dit, ok, mais moi, dans ce schéma-là, j'ai jamais dit le troisième paragraphe du schéma. On a toujours dit que les deux premiers. Et le troisième paragraphe qui parle de la sortie d'Égypte, on ne le dit pas. Jusqu'à ce qu'arrive Ben Zoma. Et Ben Zoma nous dit, non, il faut le dire. Pourquoi il dit qu'il faut le dire? Eh bien, il dit comme ça. Dans le verset, comment je sais qu'il faut rappeler la sortie d'Égypte? Tous les jours. Parce qu'il y a un verset de la Torah qui me dit, le ma'an tiskor et yom tsetra me eretz mitraim kol yeme chayecha. Pour que tu te souviennes de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. Donc la Torah dit, ah, il y a marqué tous les jours de ta vie, donc faut t'en rappeler tous les jours de ta vie. Jusque là, fastoche. Mais une fois par jour, ça suffit. Vient Ben Zoma et dit, non mais attends, le mot kol dans la phrase kol yeme chayecha est superflu. Parce que si tu avais dit tu dois te rappeler de la sortie d'Égypte les jours de ta vie,
c'est bon.
Bah, c'est tous les jours de ta vie aussi. C'est-à-dire s'il y avait eu marqué que les jours de ta vie, tu aurais quand même compris que c'est tous les jours de ta vie. Donc le fait qu'on te dise tous les jours de ta vie, qu'est-ce que ça vient nous apprendre en plus? Nous dit Ben Zoma, ça nous apprend que c'est aussi la nuit. Le jour et la nuit. Donc tu dois rappeler la sortie d'Égypte et le jour, troisième paragraphe du schéma le matin, et la nuit, troisième paragraphe du schéma le soir. Bon, ça c'est son avis. Viennent les Chachamim et lui disent, on est d'accord avec toi que le mot kol, il veut dire quelque chose, mais il ne veut pas dire la nuit. Ah bon? Il veut dire quoi? Eh bien eux ils disent, les Chachamim, qu'il faut rappeler la sortie d'Égypte, Yemechayecha, ça veut dire pendant l'exil, kol Yemechayecha, ça veut dire également dans la Géoula. Ok? Sauf que ça, c'est ce qu'on y dit dans la Haggadah. Et la Haggadah s'arrête là. Ben Zoma répond dans le Talmud. Il dit, comment vous pouvez me dire qu'on doit rappeler la sortie d'Égypte dans la Géoula? Puisque j'ai un verset dans le livre de Jérémie qui nous dit noir sur blanc, viendra un jour où quand on voudra parler de Dieu, on ne dira plus c'est Dieu qui nous a sortis d'Égypte, mais on dira c'est Dieu qui nous a sortis de France et de Navarre. Il n'a pas marqué France et Navarre, mais a marqué de tous les pays où il vous a envoyé, c'est de ça qu'on dira. Donc il y a un verset qui te dit, viendra un jour où on ne dira plus la sortie d'Égypte, mais on parlera de la sortie de l'Europe et du Maghreb. Et les rabbins, ils disent à Ben Zoma, ils disent, t'as raison, il y a marqué ça. Mais quand on dit dans la Torah, on ne dira plus, ça ne veut pas dire on ne dira plus, ça veut dire on dira moins. Ça veut dire que l'essentiel sera le nouveau truc, mais l'ancien truc, il sera toujours là, il aura quand même toujours une place. Pour notre histoire de sortie d'Égypte, les amis, la sortie d'Égypte, c'est, excusez-moi, mais c'est des clopinettes comparé à la grandeur de notre Géoula aujourd'hui. Ah oui, la sortie d'Égypte, c'est Am Israël qui est sorti d'un pays après 200 ans d'exil. Nous, on est sortis de 100 pays après 2000 ans d'exil. C'est vachement plus grand. C'est énorme.
Mais ils ne sont pas tous sortis d'Égypte.
Comme ils ne sont pas tous sortis d'Europe.
Oui, ça, d'accord, ça justement.
Mais plus sont sortis d'Europe que sont sortis d'Égypte. La preuve en est, c'est qu'on est pratiquement 50% du peuple juif en Israël. Alors que seuls 20% des juifs sont sortis d'Égypte. Donc évidemment que c'est mieux ce qui nous arrive maintenant. D'accord? Donc ils te disent, évidemment que notre réalité est bien meilleure que celle de l'Égypte, mais on va quand même continuer à faire Pessah, c'est pas parce que Yom HaAtzmaout est plus important qu'on va arrêter de faire Pessah. Ok ? Sauf que d'où les rabbins s'appuient pour dire que quand on dit plus, ça veut pas dire on dit plus, mais ça veut dire on dit moins. Yaakov. Puisque Dieu lui dit, on ne t'appellera plus Yaakov, mais Israël, et que deux minutes plus tard, on le réappelle Yaakov.
Ça veut dire que c'est pas...
Ça veut dire que à partir de maintenant, Israël, c'est le Icar, c'est l'essentiel.
Il reste encore du...
Mais Yaakov, des fois, il est toujours là.
Il reste du Yaakov.
Et donc, on a cette double identité chez Yaakov. D'un côté, Israël, la nation, celui qui n'a pas froid aux yeux, celui qui est fier de son identité et qui s'exprime, quitte à devoir utiliser la force. Et puis, il y a Yaakov. C'est quand on n'est pas au top et qu'on est obligé de retourner un petit peu se cacher et qu'on doit baisser la tête. C'est Yaakov. Et donc, il y a cette partie de yo-yo maintenant qui va s'installer. Des moments dans l'histoire où on sera Israël et des moments où on sera Yaakov. Ça fait 75 ans qu'on est redevenu Israël. Avant ça, on était Yaakov. Pendant 1900 ans, on était Yaakov. Ok ? C'est clair ? Top. Vayomer lo Elohim ani El Shaddai Pere Urve. Goy ukeal goyim ye mimeka o melachim michalatzecha yetzeu. Qui lui parle ? El Shaddai. El Shaddai, on l'a déjà vu, c'est le dévoilement de Dieu à chaque fois qu'il promet une descendance. Shaddai, c'est le dévoilement de Dieu quand on promet la descendance. Et ça, les amis, aujourd'hui, on parle de choses très profondes. Pourquoi est-ce que le dévoilement divin qui promet des enfants, c'est El Shaddai, Shaddai. Alors, Shaddai... Oui, c'est le truc qu'on met en initial, c'est le truc qu'on met sur la mezouza, c'est un dévoilement divin. C'est un des noms de Dieu. C'est un des noms de Dieu. Un des noms de Dieu. Mais pourquoi c'est celui-là qu'on utilise quand on veut promettre, et particulièrement promettre une descendance ? Alors les amis, il faut qu'on parle un petit peu mathématiques. Ah, je sais que c'est votre point fort, les mathématiques, bien sûr. Ma fille, elle m'a demandé de l'aider pour un devoir de maths. Je lui ai dit, j'ai fini. Les mathématiques, c'est terminé pour moi.
Mon père avait commencé une fois.
On m'a forcé un jour. J'ai dit, mais chacun son rôle. Moi, c'est pas les maths. Dieu, il m'a pas donné les maths. C'est pas... Chacun son truc. Et...
La pauvre, alors.
Ben, malasote.
Écoute,
mon père, il pouvait m'aider, mais il y avait personne à qui aider. Parce que moi, j'étais pas prompt à écouter et à entendre ses conseils. Là, j'aimerais bien l'aider, mais je peux pas. Et elle voudrait bien écouter. Hein, c'est mal fichu cette histoire. Hein. Je lui ai dit de l'appeler. Je lui ai dit, débrouille-toi. Voilà. C'est des maths, il n'y a pas besoin de parler hébreu ou pas hébreu, c'est des chiffres. Mais qui te sort, mathématiques. Dans le monde de la Kabbalah, on va nous enseigner que notre monde, notre réalité, ça s'appelle le monde du cercle. Pourquoi ?
C'est infini.
Pardon ?
Donc c'est infini.
Non, au contraire, le cercle, il est fini. Il est fermé et il est cyclique. C'est-à-dire, c'est le cycle de la vie, comme disait Mufasa, dans Le Roi Lion, évidemment. Donc, c'est le cercle. Ça, c'est le monde de notre univers. Le monde des âmes, le monde donc en haut, c'est, d'après la Kabbalah, le monde de la ligne droite, la droiture par excellence. Ok ? C'est symbolique. Le cycle et la ligne droite. Bon, le problème... c'est que ces deux mondes doivent se rencontrer. Eh oui. Le but, c'est qu'il y ait un contact entre là-haut et ici. La preuve en est que quand un bébé naît, on est tous très contents. Pourtant, le corps du bébé, il était déjà là dans le dernier ultrason, dans la dernière échographie. Le corps, il était déjà bien prêt, c'est bon. Pourtant, on a une joie qui n'est pas la même du tout que quand il sort. Donc on n'est pas content tellement pour avoir le corps qui est là, qui se balade.
Il est,
il est vivant. Vous n'avez pas vivant. Son cœur, il bat. Il ressent les choses. quand on lui fait écouter des bruits forts, et bien, ça s'emballe.
D'accord, mais enfin, il respire pas.
Non, bien sûr qu'on peut pas comparer. Mais justement, c'est ce que je suis en train de voir. Qu'est-ce qu'on voit? En quoi c'est pas la même chose? Vivant, il est. D'accord. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la Torah elle va interdire l'avortement à ce moment-là, parce que c'est un être vivant. Maintenant, d'un autre côté, l'homme, il est formé de corps, oui, mais il y a aussi un autre truc qui s'appelle son âme, sa neshama. Or, sa neshama, elle était présente déjà depuis la création du monde. Donc, on n'est pas tellement heureux, elle était déjà là avant. En fait, ce qui nous rend terriblement heureux, c'est l'union du corps et de l'âme. Pas shoot. L'union du corps et de l'âme, c'est l'union donc du monde du cercle avec le monde de la ligne droite. En mathématiques, on nous a appris que ce qui fait la relation entre le diamètre et le périmètre, comment on fait la relation entre la ligne droite et le cercle, il nous faut un élément pour l'aider à faire la relation entre les deux. Cet élément s'appelle pi. Pi.
3,14.
3,14. 3,14, 159. Mais 3,14. Il a fait. Ah, bah tiens, en guématria. 3,14. C'est une très bonne question. Les Grecs, ils l'utilisent déjà, mais on ne sait pas qui a découvert ça. Par contre, 3,14 en guématria, c'est Shaddai. Ouais. Eh oui. Shaddai, c'est 314. C'est-à-dire que le dévoilement divin qui va nous donner la promesse de la descendance, c'est ce qui nous permet de faire le lien entre la ligne droite et le cercle, entre le monde des âmes et le monde de la nature. Et c'est ça la promesse par excellence. Alors, c'est pas la première fois qu'on voit El Shaddai, il avait promis Avraham, Yitzhak, maintenant Yaakov. Sans Yaakov, il a déjà 11 enfants.
Ouais.
Donc, qu'est-ce qu'il promet ici? La naissance de qui? De Binyamin. Exactement. C'est-à-dire, donc il faut lui dire, voilà, Binyamin reste à naître, allez au boulot. Top. Et quand il lui dit des rois sortiront de lui, on parle de Shaoul, premier roi d'Israël qui était de la tribu de Binyamin. Et haaretz asher natati l'Avraham ou l'Yitzhak, lecha etenena ou lezaracha acharecha etanet haaretz. Je renouvelle la promesse que j'ai faite à Avraham et à Yitzhak, la terre d'Israël, je te la donnerai à toi et à tes descendants. Vayal me'alav Elohim b'makom asher diber ito. ויצב יעקב מצבה במקום אשר דיבר איתו, מצבת אבן. יעקב a mis une stèle en place pour marquer l'endroit où Dieu lui avait fait cette promesse. ויסך עליו נסך ויצוק עליה שמן. Il a mis de l'huile d'onction sur la pierre.
Déjà en Israël, non?
On est en Israël. Et là, il fait une espèce de pierre pour se repérer, il met une huile d'onction. C'était un mina qui est très répandu à l'époque. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça fait de mettre de l'huile sur quelque chose? Parce que là, on met sur une pierre, mais on va voir que dans le judaïsme, on va mettre de l'huile sur la tête des rois. Néma, il y a un minag, je ne sais pas ce que vous allez faire dans 3 semaines, mais il y a un minag de mettre de l'eau dans les bougies de Hanouka. Alors, si vous allumez des bougies à la cire, non, il n'y a pas. Mais ceux qui mettent de l'huile, il y a un minag de mettre de l'eau dans les bougies de Hanouka. Alors, soit tu dis parce que tu es très ashkénaze et donc tu veux économiser. Oui, comme ça tu mets moins d'huile. Coûte moins cher. Ou alors, il y a une autre raison. Et l'autre raison, c'est quoi? C'est qu'on veut marquer la différence entre l'eau et l'huile, ça ne se mélange pas. Donc, on veut marquer la différence qu'il y a entre le peuple juif et en l'occurrence les Grecs. Donc, on veut marquer cette différence. À chaque fois qu'on va mettre de l'huile sur quelque chose, c'est pour marquer la démarcation entre la chose en question et le reste du monde. Okay, c'est pour ça que le roi, on lui met de l'huile, c'est pour ça que le Kohen Gadol, on lui met de l'huile, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on veut introniser un ustensile au Beth Amikdash, on va lui mettre de l'huile d'onction également. Il a un statut différent. D'accord? C'est à ça que ça sert. Et donc, Vayikra Yaakov, את שם המקום אשר דיבר איתו שם אלוהים, בית אל, la maison de Dieu. À 20 minutes au nord de Jérusalem. וייסעו מבית אל, ויהי עוד כברת ארץ לבוא אפרתה, ותלד רחל ותקש בלידתה. Ils ont marché depuis Bethlehem et ils sont arrivés à Ephrat. Grande מחלוקת, est-ce que c'est Ephrat d'aujourd'hui? ou Ephrat dans le nord. Dans le nord, attention, pas dans le nord, mais dans le Shomron. En fait, la question est de savoir est-ce que Yaakov il est parti au sud de Bethel ou est-ce qu'il est parti au nord de Bethel. Le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, dans son commentaire de la Torah, nous dit que c'est au nord. Et il fait une analyse des versets, il te dit que c'est au nord. Très bien.
Qui c'est qui a dit c'est au sud ?
Personne n'a dit c'est au sud par rapport à... On dit c'est Ephrat. On n'a pas dit qui. Le Ramban, à un moment donné, vous connaissez son histoire personnelle, il habite à Barcelone, seulement il est trop fort dans sa dispute de Barcelone, et il est tellement fort que, vous savez, il y avait les débats publics entre un chrétien et un rabbin juif, le problème c'est qu'il est trop fort et que donc le pape fait arrêter le débat, et même Louis Aragon, le roi de Barcelone, ne peut plus le protéger, il lui dit il faut que tu partes, et le Ramban part en Israël. Il part en Israël. Lorsqu'il arrive ici, il demande aux juifs qu'il rencontre de l'emmener sur la tombe de Rachel. Et les juifs l'amènent sur la tombe de Rachel que nous, on connaît. C'est-à-dire à Ephrat Bethlehem ici. Et là, il écrit quelque chose de fantastique. Il écrit, c'est ce qu'on peut trouver dans les Kitvé à Ramban, les écrits du Ramban, où il dit comme ça. D'après mon étude, Rachel est enterrée là-haut. Aval, d'après la tradition juive, elle est enterrée en bas. Donc, elle est enterrée en bas. C'est-à-dire que moi, j'ai pensé, d'après ce que je comprends de la Torah, que ce n'est pas là. Mais il n'y a rien de... Moi, je ne suis rien. Il n'y a rien de plus fort que la tradition juive. Si Am Israël, il a dit qu'elle était là, elle est là. Nahon ? Nahon ? Mais c'est vrai, en plus. Tu veux aller contre une tradition ? Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. D'accord ? Elle a un accouchement très difficile. Elle est en train d'en mourir. N'aie pas peur, c'est aussi un fils. Au moment où elle était en train de rendre l'âme, son fils venait de naître, eh bien elle a dit... Roni, c'est la pauvreté. Là, c'est avec un Aleph. Ve'aviv, Yaakov, karalo Binyamin. Lui, il ne dit pas Ben Oni, il dit non, Binyamin, le fils de la droite. Ben Yamin. Okay, le fils de la droite, donc le fils de la bonté. Yamin, zemidata chesed. Ah, top. Vatamot Rachel, vatikaver, baderech Ephrata, hi, Bethlehem. Top. Bethlehem, c'est pas loin. Vous avez déjà été à Bethlehem ?
Oui.
Dans le même du côté arabe ?
Oui.
Il y a longtemps.
Vous vous rappelez ? Qu'est-ce qu'il y a à voir là-bas ?
Le truc Jésus-Christ.
Voilà, il y a la basilique de la nativité. Zéakol. Chav, ce qui est fou, c'est que quand tu demandes à un juif, allez, lambda, et particulièrement un français, et tu lui demandes de te dire où est né le petit Jésus, ça, Bethléem, tout le monde connaît. Il a grandi à Nazareth, il est né à Bethléem. Et quand tu demandes à ces mêmes juifs, où est né le roi David ?
On ne sait pas.
Il n'y a plus personne.
Oui, c'est une influence.
Alors qu'il est né à Bethléem.
Ah oui ?
Eh bien oui, parce que, bon, évidemment, c'est l'influence de la culture occidentale, chrétienne, évidemment. Moi, mon combat, il n'est pas de dire que tu ne devrais pas savoir quand est né le petit Jésus. Il est que tu devrais savoir aussi quand est né David. D'autant plus qu'on le dit tous les vendredis soirs dans les Hadodis. C'est-à-dire, on le chante, mais personne ne comprend ou ne fait attention. On dit dans les Hadodis, Ben Ishai, Beit Alachmi. Ben Ishai, le fils de Ishai, c'est David, Beit Alachmi de Bethléem. Et puis, il faudrait surtout se rappeler que toute la symbolique du christianisme, c'est un copier-coller de nous. Pourquoi Jésus est né à Bethléem ? Parce que David est né à Bethléem. Il faut bien comprendre un truc. Jésus, il n'est pas censé naître à Bethléem. D'ailleurs, il n'est certainement pas né à Bethléem. Si tu lis les évangiles, pourquoi ils habitent où, monsieur ?
Si on lit les évangiles, on a déjà du mal avec...
Tu as raison. tu as raison. Tu as raison, mais qu'est-ce que tu fais? Tu as raison. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus de batterie ou quand c'est Shabbat et qu'on va aller aux toilettes? Il faut bien qu'il y ait quelque chose à lire. Quoi?
Tu lis les évangiles.
Il faut bien. Mais Kitzor, quand tu lis leur texte à eux, te disent que quoi? Que Myriam et Joseph, Ken, ils habitent où? Ils habitent à Nazareth. Rien à voir, Nazareth c'est au nord. Mais il y a un grand recensement des Romains à Jérusalem. Pourquoi à Jérusalem? Parce que c'est Pessah. Donc comme c'est Pessah, tout le monde vient à Jérusalem, c'est pèlerinage. Et donc on va faire à ce moment-là un grand recensement de la population. Monsieur vient avec madame, elle est enceinte jusqu'au rabord. Bon d'accord. Et là on nous dit qu'ils ne peuvent pas arriver à Jérusalem parce qu'elle sent les contractions, ça sort. Et donc ils vont s'arrêter en chemin dans une étable et boum, les rois mages en Galilée. Alors là, c'est parti. C'est comme les rois mages. Mais quelle Galilée? Ils sont pas venus en Galilée. Puisqu'ils sont à Bethléem. C'est pas du tout le chemin. Mais tu vois bien que donc les fondateurs du christianisme, qui étaient à Rome, parce que je ne parle pas de la première génération, je parle de ceux qui ont mis en place les dogmes du christianisme, ils ne connaissaient rien à la géographie d'Israël. Ils disent qu'ils habitent à Nazareth. Jérusalem, c'est là. Et Bethléem, c'est au sud. Donc comment tu veux qu'en chemin vers Jérusalem, ils ont dû s'arrêter et c'est Bethléem? Ben que non. Mais oui, mais il faut qu'ils naissent à Bethléem. Parce que vu que David, c'est censé être le Mashiach, enfin ses descendants, il faut qu'il succède à David. Donc si David, il vient de Bethléem, il faut que lui, il vienne de Bethléem.
Bien sûr.
C'est pas shoot.
Alors, ils inventent.
Mais évidemment. Il y a 12, c'est, comme de par hasard, il a trouvé 12 élèves.
Comme les 12
tribus. Ah ben tiens, le peuple juif, c'était 12 tribus. Nous, on va faire 12 élèves. Il faut qu'il y ait un renégat. C'est quand même incroyable que c'est le seul qui n'ait pas changé son nom et qui n'ait pas christianisé. Tous les autres, ils ont changé de nom. Non, Judas, il est resté Judas, parce que c'est Yehoudi, Yehoudi, juif, la Judée. Donc le méchant, c'est Baro. Je ne sais pas si tu connais l'histoire du bon samaritain. C'est une autre histoire qui est racontée dans les évangiles, mais peut-être que tu as déjà été à la mer morte. Sur la route, il y a une pancarte du bon samaritain. C'est très beau à visiter d'ailleurs. Il y a des mosaïques magnifiques, y compris de la synagogue de Gaza. C'est-à-dire, il y a 2000 ans. C'est incroyable. Bekitsour, sauf que moi, de Dronde, j'ai étudié la géographie. Le Shomron, la Samarie, c'est pas là. C'est plus haut. Alors, qu'est-ce qu'il fait ici? Ah non, parce que dans les évangiles, on te raconte une histoire. Que Jésus se balade dans la région, ici, dans Yehuda, et il rencontre un méchant Cohen. Méchant. Après, il rencontre un méchant Lévi. Méchant. Puis après, il rencontre un autre bien. Sauf que, excusez-moi, quand on dit Cohen Lévi, c'est quoi la suite? Ah, on va quand même pas dire que Israël il est bien. Certainement pas. Donc tout d'un coup, c'est plus un Israël, mais c'est un Chomroni. Un Samaritain. Il a rien à faire là, il habite pas là, mais c'est pas grave, yalla, chéyé. Et puis d'abord, je vous rappelle que dans quelques semaines, nos amis chrétiens vont fêter la Noël. Mmh. Sauf que si vous avez entendu, je viens de vous dire qu'au départ, le recensement demandé par les Romains, c'était parce que c'était Pessah.
Oui, c'est ça que je comprends pas pourquoi.
Eh oui, donc il n'est pas né à Noël. Il est né à Pessah. Mais c'est bien beau de dire ça. Mais Polo, quand il vient à Rome et qu'il veut vendre son christianisme à tout le monde, il va quand même pas dire... Bon, écoutez les gars, vous avez rien compris, on va tout changer. Non ! Il prend la fête principale de Rome, qui était les Calenda et Saturnunda, qui était au moment du solstice d'hiver, et il dit, vous savez quoi, hein ?
On va le coller.
Là. Ben ouais, ça va bien marcher. Et puis ça marche. C'est un col. Tout n'est que symbolique dans cette histoire-là. Hein ? Un jour, il faudrait étudier les lois qui se sont développées par rapport à l'histoire de Noël ou pas Noël, deux mondes différents entre Ashkenaz et Sépharad par rapport à Noël. Parce qu'on est en droit d'étudier la Torah, on a pas d'étudier la Torah. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ce truc machin? Non.
Les musulmans sont plus proches.
Deux.
Les judaïs.
Bah, donc les musulmans, d'abord, ils ne sont pas idolâtres. C'est déjà pas mal. Ils ont leurs problèmes à eux, ils ont d'autres problèmes. Mais bon. Bekitsour, donc elle est née, enfin elle est morte à Beth Lechem. Iné. Vaetsev Yaakov Matseva al Kevurata, imatsevet Kevurat Rachel ad Ayom. Vaïsa Israël, vaïeta olo mehala le migdal eder. Vaï bishkon Israël ba'aretzahi. Donc ça y est, Israël est posé, c'est bon. וילך יהודה וישכב את בלעה פילגש אביב כס כספס. Ça y est, Israël est en place. Elle est morte dessus de l'accouchement. Et bon, la vie reprend son cours. Après, je sais pas, le deuil, machin, hein, la vie reprend son cours. Et là, on te dit... Oh, il va pas à Migdal Eder. Il va... Bidio. Vaïssa Israël vaïet à Olo me'ala le Migdal Eder. C'est-à-dire voilà, il était à Bethléchem et il monte. Et il monte. Ouais, plus au nord. Maintenant, on nous dit, tout d'un coup, Réhouven va aller coucher avec Bila, la femme de son père. Alors, c'est une femme un petit peu avec un statut spécial, sa Pilegesh, c'est sa concubine, mais quand même. C'est la maman de ses demi-frères. C'est quoi cette histoire ? Chazal vont nous dire, t'inquiète pas, il n'a pas vraiment couché avec elle, il a juste changé le lit de Yaakov. Eh oui, parce que Yaakov, il a quatre femmes. Donc, il est censé faire un roulement. Sauf que son lit officiel, il était chez Rachel. Ça, tout le monde a plus ou moins accepté, c'était son amour de base, c'était avec elle qu'il voulait se marier, ok. Mais Réhouven, il dit, une fois que Rachel, elle est morte, il aurait dû mettre son lit fixe chez ma mère, Léa. Il va chez la servante de Rachel. Et oh, faut pas la pousser. Donc, est-ce qu'il a vraiment couché avec ? Ou est-ce qu'il a juste changé l'histoire ? C'est pas le problème. Il rentre dans l'intimité de son père. Et à ce moment-là, Vaishma Israël. Israël a entendu parler de ça. Vaïu ben Yaakov Shnemasa. Et là va commencer la déchéance de Réhouven. Réhouven va petit à petit perdre son statut de Bechor. À cause de cet événement-là. Ben Léa, c'est qui? Bechor Yaakov, Reuven, Shimon, Levi, Yehuda, Issachar, Zvulun. Ben Rachel, Yosef ou Binyamin. Ben Bilha, Shifrat Rachel, Dan et Naphtali. Ben Zilpa, Shifrat Léa, Gad et Asher. Elle est Ben Yaakov, Asher Yulad Lo, Befadan Aram. Veyavo Yaakov et Yitzhak Aviv, Mamere, Kiryat Arba, Ichevron, Asher Gar, Sham, Avraham et Yitzhak. ויהיו ימי יצחק מאת שנה ושמונים שנה. ויגבה יצחק וימות. ויאסף אל עמיו זקן ושבע ימים. ויקברו אותו עשיו ויעקב בניו. יצחק מר, il est content, il est en paix, il est paisible, et ses deux enfants vont l'enterrer. C'est pas rien, c'est pas anodin que Yaakov et Esav se retrouvent. C'est encore moins anodin que Yaakov laisse Esav passer en premier. C'est-à-dire ? Donc, ok. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Ben, puisqu'on nous a dit ça, eh bien, toute la fin de la paracha, c'est un passage très, 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 comment te dire, rébarbatif. On va te passer la généalogie de Esav. « Ve'el et toldot Esav ou Edom, Esav lakach et nashav » מי בנות קנאן את עדה בת אלון אחיתי ואת האוליבמה בת ענה בת צביון אחיתי אחיבי סליחה ואת בסמת בת ישמעאל אחות נוויות נו קילת חופם עשב ותלד עדה לעשב את אליפז ובסמת ילדה את ראואל והאוליבמה ילדה את יאוש ואת יעלה ואת קורח אלה בני עשב אשר יולד לו בארץ קנאן ויקח עשב את נשב ואת בניו, ואת בנותיו, ואת כל נפשות ביתו, ואת מקנהו, ואת כל בהמתו, ואת כל קניינו אשר רכש בארץ קנאן, וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו. Il se sépare avec toute sa famille, il veut pas rester proche de Yaakov. Donc nous on sait, il va aller à Har Seir, à côté de Petra. כי היה רכושם רב משבט יחדיו, ולא יכלה הארץ מגוריהם לשאת אותם מפני מקניהם. וישב עשיו בהר סעיר, עשיו הוא אדום. ואלה תולדות עשיו, אבי אדום, בהר שעיר. אלה שמות בני עשיו, אליפז בן עדה אשת עשיו, ראואל בן בסמת אשת עשיו, והיו בני אליפז תימן, עומר, צפו, וגעתם, וכנז, ותמנה הייתה פילגש לאליפז. אהה. אין דם. ספל תמנה. ומדרש ונדיר כוסת תמנה לה, אל השפע לפר. תמנה, אלה ונו שאברהם, pour se marier avec lui. Et Abraham l'a rejetée. Elle dit pas du tout.
C'est sa petite fille.
Non, elle n'est pas de la famille. Elle n'est pas de la famille. C'est une princesse de la région. Et elle vient voir Abraham pour se marier avec lui. Abraham dit non. Plus tard, elle viendra voir Yitzhak. En disant, je veux me marier avec toi. Elle va dire non. Elle ira voir Yaakov. Il va dire non. Elle ira voir Esav. Il va dire non. Et elle ira voir le fils de Esav, il dira, attends, je veux bien, mais pas en tant que femme légitime. Pilegesh. C'est-à-dire qu'on voit une femme qui veut complètement se rattacher à Israël, qui n'y arrive pas, qu'on rejette à chaque fois.
De quelle origine elle est ?
Elle est princesse de la région. Et donc, qu'est-ce qui se passe une fois qu'elle est rejetée ? Ben, qu'est-ce que tu développes face à la personne qui t'a rejeté, disons que Vetimna et Tapilegesh l'Eliphaz, Benessa, Vateled l'Eliphaz et Amalek. C'est elle qui est la maman de Amalek. Tout simplement.
Elle méritait pas ça.
Je ne sais pas si elle méritait ou si elle ne méritait pas. Peut-être qu'ils avaient une bonne raison, Avraham, Yitzhak, Yaakov et Esav, de la rejeter.
Donc le fils, donc le père d'Amalek, et donc. La famille
d'Abraham. Ah, bah évidemment. Ah, bah, oh, c'est pas le petit-fils, c'est l'arrière-petit-fils d'Abraham.
Pourquoi on répète deux fois la lignée
de... Là, lignée de Esav oui. Non, la deuxième fois, c'est pour t'amener à Amalek. C'est uniquement pour ça.
Il y a un endroit qui s'appelle Timna.
Oui, mais c'est pas le même Timna.
C'est qui le père d'Amalek?
C'est Eliphaz. Eliphaz est le fils de Esav.
Est-ce qu'il y a des discussions là-dessus? Est-ce que. Il n'y a pas des opinions qui disent, et si on l'avait
accepté? Si, Rabbi aussi dans la Gemara, il dit, ils n'ont pas bien fait les Avot, ils auraient dû l'accepter. Et les Chachamim lui disent, Char et les Mar et les Rabbi aussi. Pardonne-lui Dieu à Rabbi aussi d'avoir dit ça. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils avaient raison de ne pas l'accepter. Mais si une femme comme ça revient aujourd'hui, alors on peut en parler. C'est-à-dire que lorsqu'on est en train de créer l'identité d'Israël, on ne peut pas mettre. Une identité qui est pleine de haine. C'est pas possible. Peut-être qu'on pourra gérer ça plus tard. Mais là, on n'est pas encore construit pour le gérer.
Des fois, il vaut
mieux, ouais. D'accord. C'est-à-dire ?
On ne dit pas qui elle est, Timna.
Non. Le Midrash nous dit que c'est une des princesses de la région, une des princesses de Knaan.
Non, c'est pas plus.
Non. Kanyerik, c'est pas vraiment important.
C'était la fille des princes.
Oui.
C'est tout.
C'est ça. Vere ben Eruel, Nachat, Vezera, Vezera, Shamma, Umiza, Elle, Ayou, Bene, Basmat, Echetessa, Elle, Ayou, Bene, Aolivama, Batava, Batana, Batsivion, Echetessa, Vatelet, Savet, Yehush, Vet, Yalam, Vet, Korach, Elle, Aloufe, Bene, Sav, Bene, Eliphaz. Bechor Esav, Alouf Teman, Alouf Omar, Alouf Tsefo, Alouf Kenaz. Mazé Alouf, ce sont des chefs de tribu. C'est-à-dire, Alouf Korach, Alouf Gatam, Alouf Amalek, Elle Aloufe Eliphaz, Beretz Edom, Elle Bene Ada, Velle Bene Reuel, Bene Esav, Ben Esav, Alouf Nachat, Alouf Zerach, Alouf Shamma, Alouf Miza, Elle Aloufe Reuel, Beretz Edom, Elle Bene Basmat, Eshet Esav, Velle Bene Aolivama, Eshet Esav, Alouf Yehush, Alouf Yoalam, Alouf Korach, Elle Bene Aloufe Alivama, Bat Esav, Bat Ana, Eshet Esav, Elle Bene Esav, Velle Aloufeem, Hu Edom. Bon, bah, c'est très bien, c'est bon, j'ai compris. Non, t'as pas fini. Elle est benesseir, achori, yoshve, aharetz, lotan, vechoval, vetsivion, vehana, vedishon, vehetzar, vedishan, elle est aloufe, achori, benesseir, beretz edom. Veyu bene lotan, chori, vehemma, veachot, lotan, timna. Ah, c'est pour que tu saches d'où elle vient, timna. C'est la sœur de lotan, qui était lui-même un des aloufim de seir. Donc, tout est dans la région. ולבני שובל ואלבב מנחת ואיבל שפו ועונן ולבני ציוויון והיה וענה הוא ענה אשר מצא את האימים במדבר בראותו את החמורים לצביון אביו. Très 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 complexe histoire. À quoi ça nous sert de savoir tout ça? Il y a un monsieur qui s'appelle Anna. Et on dit que c'est lui qui a trouvé l'eau. Anna, un homme qui aurait trouvé l'eau. Ben, je sais pas, c'est bizarre parce que il y a un autre personnage de la culture occidentale
qui marche sur l'eau.
Qui, non, pas qui marche sur l'eau. Non, non, pas qui marche sur l'eau. Mais qui va construire une cité parce qu'il va réussir à trouver l'eau. Et il s'appelle Aîné, le survivant de la guerre de Troie. Et c'est la même époque. Est-ce que Anna, c'est Aîné?
Ça s'écrit déjà pareil.
Ben, ça ressemble beaucoup quand même. Ah, mais attendez, ça va beaucoup plus loin. ואלה בני ענה דישון והלבנה ותנה ואלה בני דישון חמדה ואשבן ויתרן וקרן אלה בני עצר בלען וזהרן ויעקן אלה בני דישן עוץ וערן אלה אלופי אחורי אלוף לוטן אלוף שובל אלוף ציוויון אלוף ענה אלוף דישון אלוף עצר אלוף דישן אלה אלופי אחורי לאלופיהם בארץ צעיר ואלה המלאכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלאך מלך לבני ישראל נתודי תשתקווה. Pourquoi je te raconte tout ça? Parce que je veux que tu saches que le monde, il s'est développé au moment où Israël était en train de commencer à venir. Il y a eu des rois dans le monde. Et c'est Esav qui a pris le contrôle du monde. Donc que tu saches, mon ami, t'es pas le premier. Am Israël va arriver sur la scène politique, mais que tu saches qu'il y a eu d'autres civilisations qui se sont mises en place. Ok? Et on va voir de quelle civilisation, pourquoi est-ce qu'on nous raconte tout ça? On nous dit... וימלוך באדום בלה בן באור ושם עירו דין אבה וימות בלה וימלוך תחתיו יובב בן זרח מבצעה וימות יובב וימלוך תחתיו חושם מארץ התימני וימות חושם וימלוך תחתיו עדד בן בדד המכה את מדיין בשדה מואב ושם עירו אבית וימות עדד וימלוך תחתיו סלמה ממסריקה וימות סלמה וימלוך תחתיו שאול מרחובות הנער וימות שאול וימלוך תחתיו בעל חנן בן אחרון אחבור סליחה וימות בעל חנן בן אחבור וימלוך תחתיו אדר ושם עירו פאו ושם אשתו מאת תבאל בת מטרד בת מי זהב. C'est quand même bizarre cette histoire parce que
c'est à quel verset là?
Là on est à la fin de la paracha et on nous a raconté les rois de Esav et il y a un truc qui est choquant, c'est qu'il n'y a jamais un fils qui succède à son père. C'est à chaque fois quelqu'un qui n'a rien à voir avec la famille qui succède. Ça veut dire quoi? Ben, ils s'entretuaient. Il n'y a pas de dynastie, il n'y a pas de suivi. La barbarie à l'état pur. Alors, on a parlé tout à l'heure d'un mec qui s'appelle Anna, que peut-être c'est Aîné. Et là, on parle de civilisations qui se caractérisent par le fait qu'il y a des rois qui se succèdent les uns les autres, mais qui ne sont jamais les uns les fils des autres. Ok, intéressant. Et ils viennent de l'Est par rapport à l'Occident. ואלה שמות אלופי עשיו למשפחותם, למקומותם, לשמותם, אלוף תמנה, אלוף אלווה, אלוף יתת, אלוף אהוליבמה, אלוף אלה, אלוף פינון, אלוף כנז, אלוף תימן, אלוף מבצר, אלוף מגדיאל, אלוף עירם, אלה אלופי אדום למושבותם, בארץ אחוזתם, ועשיו אבי אדום. On a lu tout le monde, sauf que Rashi va pas du tout prendre la peine d'expliquer tout le monde. Sauf un. אלוף מגדיאל. C'est le dernier rachis de la paracha. Qu'est-ce qu'il dit, le dernier rachis de la paracha? Non, on dit que tu l'as. Le tout dernier rachis de la paracha, il te dit Magdiel. C'est qui?
Magdiel, c'est Rome.
C'est Rome. Rome.
Rome.
Est né, d'après la mythologie romaine, et celui qui a créé Rome. Qui est le peuple qui a créé Rome? Pas les Romains. Ils n'étaient pas Romains. Qui est le peuple qui a créé Rome? Les Étrusques. Et les Étrusques, c'était des peuples qui venaient de l'Est et qui se qualifiaient par le fait qu'ils ont créé des royautés, mais ils s'entretuaient et il n'y avait jamais un père qui régnait avec, enfin, un fils qui régnait après son père. Est-ce qu'on ne serait pas en train ici de dévoiler le début de Rome en filigrane de la dynastie de Esav, qui va faire le contrepoids par rapport à Yaakov qui est devenu Israël? Ah là, tout de suite, c'est autre chose. Quand est-ce que c'est la première fois qu'on va avoir des contacts avec Rome, officiellement? Est-ce que vous savez ça? Quand est-ce que c'est la première fois où le peuple juif va avoir contact avec Rome? Et est-ce que ce premier contact est positif ou négatif? Eh ben non. Le premier contact qu'on a avec Rome...
Le royaume d'Israël et de Yehuda.
Non.
C'est à ce moment-là.
Non, parce qu'à l'époque du royaume d'Israël et de Yehuda, Béhémet, que Rome n'existe pas. Il y a les Étrusques, mais ce n'est pas encore la République de Rome. Oui, il y a déjà des gens qui habitent là-bas, mais ce n'est pas encore la République de Rome.
Alors c'est plus tard.
La première fois qu'on est en contact avec eux, c'est parce qu'on a contracté une alliance avec eux.
Contre qui?
Une alliance militaire. Avant de te dire contre qui, je veux que tu saches qui a signé. Parce que tu le connais. Eh oui, le mec qui a signé l'alliance avec les Romains, c'est un monsieur qu'on appelle chez nous Yehuda Maccabi. Tu sais que dans 3 semaines, c'est Hanouka. Yehuda Maccabi, les Juifs, les Hashmonaïm, ont fait une alliance avec les Romains contre les Grecs. Parce que la nouvelle république de Rome détestait l'empire grec et voulait prendre de la place. Et donc, les premiers contacts qu'on a eus avec Rome, c'était des contacts d'alliance militaire contre les Grecs. Bon, malheureusement, ça s'est mal fini après. Mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Donc voilà, les plans sont placés, les pions sont là. Esav, ça y est en train de faire sa vie. Nous, ça y est, nous pouvons enfin agir. Ça y est, Yaakov est devenu Israël, Israël est en place, Binyamin est né, c'est bon, on peut commencer à bosser maintenant dans le monde. Et Yaakov décide que c'est le moment de ne pas bosser, mais de partir en vacances. Vayeshev Yaakov, Be'eretz Megure Aviv, Be'eretz Kenan. Et là, il s'est installé, il s'est posé pépère, nous disent nos sages, Bikesh Yaakov, Leshev Be'shalva. Il a voulu se poser pépère, tranquille. Miyad kafat salav rugzo shel Yosef, et directement les problèmes avec Yosef vont commencer, mais ça c'est une autre histoire. À la semaine prochaine.
Donc, et ça va réussir avant son